la dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Justine Diebling, Virginie Leduo et Boris Spino. Prise de son assurée ce soir par Stéphane Desmonts. Et la réalisation, elle, est signée Daniel Finot. Ce soir, Anna Sigalevitch et Emmanuel Dupuis se font face à notre affiche. Péléas et Mélisande de Debussy, dirigée par Louis Langrée dans une mise en scène de Eric Ruff. C'est au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Alceste de Gluck, dirigée par Stefano Montanari, mise en scène par Alex Ollé. C'est à l'Opéra de Lyon. Et puis nous parlerons du disque Volodos Plays Brahms d'Arkady Volodos chez Sony Classics. Vers 21h20, Xavier Martinet nous invitera dans le petit salon pour parler des relations des opéras avec leur public. Et puis, bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Claude Hivernet, Bilad Es Soudan, à la Fondation Henri Cartier-Bresson. C'est une exposition à découvrir à la Fondation jusqu'au 30 juillet. Nous ouvrons cette émission avec une nouvelle production de Péléas et Mélisande de Debussy, dirigée donc par Louis Langrée, mise en scène Eric Ruff au Théâtre des Champs-Élysées. On sait que Claude Debussy avait lu la pièce de Maurice Maeterlinck dès sa publication en 1892, qu'il avait assisté à la création de la pièce au Bouffe parisien l'année suivante, qu'il avait demandé et obtenu de l'auteur le droit de mettre en œuvre son œuvre en musique, ce qu'il fit les deux années suivantes. C'est pourtant seulement en 1902 que l'opéra a été créé. À l'Opéra Comique, dirigé par André Messager, cette création, succès immédiat à Paris comme dans les grandes maisons du monde entier. L'œuvre va être à l'affiche dans les années qui suivent et on voit que cela dure encore. Il paraît que le soir de la première était cauchemardesque, que André Messager a fini en larmes devant l'accueil du public. Bon, l'histoire, celle d'un impossible amour. Évidemment, un mariage trop vite conclu entre Mélisande et Golo, et puis un coup de foudre réciproque de Mélisande et Péléas, son beau-frère, sans que ces deux-là ne se le disent. Et puis il y aura une bague perdue, qui évidemment va attiser les soupçons de Golo. Tout cela finira mal. Avant d'en parler, on écoute un extrait, et je précise, il faut toujours le faire, c'est un extrait d'une répétition de cette production de Péléas et Mélisande.
Thank you.
Voilà pour cet extrait de répétition, je le rappelle, de cette production de Péléas et Mélisande, en ce moment à l'affiche du Théâtre des Champs-Élysées. C'est jusqu'au 17 mai, encore quelques jours. Donc, vous commencez, Anna Sikelevitch ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on voit d'abord ?
Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un rideau d'abord qui monte très lentement en silence, voilà, qui donne un peu, à mon sens, le tempo de cette mise en scène et du spectacle. C'est une scénographie que j'ai trouvée très belle et assez judicieuse.
Signé Eric Ruff,
voilà, qui met en scène également la mise en scène. On a un ovale au centre qui prend pas mal d'espace avec des cordages, hein, les cordages chers à Eric Ruff, qui tombent des cintres, une pierre au centre, ça figure la forêt. Au départ, une forêt qui est assez dépouillée. On a à cour et à jardin deux pontons. Voilà, les personnages entrent et sortent pas mal par ces deux pontons avec des petits escaliers. On a un tunnel à l'avant-scène. Ah, pas un tunnel, un canal, pardon. Un canal à l'avant-scène, assez mince, qui va là, de cour à jardin. Et puis, on a, donc, avec ce centre comme ça, cet ovale, qui va se relever petit à petit. Ça va se transformer en fait en filet de, sorte de filet de pêche, comme ça, qui vont monter un peu dans les cintres, qui sont assez nébuleux, qui font penser à de la poussière, à une toile d'araignée, aux mauvaises pensées qui planent, à la menace. Il y a une menace comme ça, un peu floue. Donc voilà, cette scénographie est comme ça. Et puis ça bouge. On a une structure en demi-cercle qui est au fond de la scène, qui va avancer ou reculer selon les tableaux, qui est très haute, qui est dans une sorte de bois, mais elle apparaît presque comme du béton quand elle figure la tour ou une sorte de bunker. Voilà. Donc c'est simple, mais c'est fluide. Ça se déplace lentement et c'est très judicieux. C'est une scénographie que j'ai trouvée vraiment évocatrice.
Emmanuel Dupuis, alors, que fait-on dans ces espaces ? Est-ce qu'on peut parler des principes ou des partis pris de mise en scène d'Eric Ruff ?
Oui, alors, c'est un spectacle, en fait, qui est assez étrange parce que c'est un spectacle qui refuse les faits. Alors, effectivement, il y a cette scénographie très belle qu'Anna a si bien décrite et qui fait penser un petit peu à un univers de fin du monde parce que, bon, c'est pensé un petit peu, on ne sait pas trop, à un réacteur nucléaire ou à une base sous-marine et décor très sombre. Magnifiquement éclairé, magnifiquement sculpté par les lumières.
Par Bertrand Couder.
Bertrand Couder, voilà, c'est ça. Et dans ce décor, la seule tache de lumière, la seule tache de couleur, en fait, c'est la chevelure de Mélisande. Mmh. La chevelure rousse de Patricia Petitbon. Et les apparitions de Mélisande sont souvent très très belles parce que notamment quand elle apparaît à la fenêtre pour chanter la chanson de la tour qu'on a entendue, c'est un climat. Elle apparaît sur un fond doré et sa robe fait penser aussi aux robes que l'on voit dans les tableaux de Klimt. Alors, mis à part cet aspect visuel très fascinant, oui, très très beau finalement, c'est quand même un spectacle qui refuse les faits et même, je dirais, qui refuse les idées. Il y a quand même une sorte d'effacement dans ce théâtre, parce qu'en fait, dans Péléas, ce qui est le plus important, c'est pas ce que se disent les personnages, c'est ce qu'ils ne se disent pas. Mmh. Et ce non-dit, Eric Ruff ne cherche pas à le mettre en scène de façon, pas de façon explicite, en tout cas, pas, il cherche pas à le surligner. Et pourtant, ce non-dit, il est très souvent évident, grâce à une direction d'acteur qui est tout en finesse, qui est pleine de détails. Par exemple, lors de la première rencontre entre Péléas et Mélisande, l'affleurement du désir sexuel entre ces deux-là, on le perçoit tout de suite, et on le perçoit à un presque rien, à un regard, à un geste de la main. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Donc voilà, c'est un spectacle finalement qui fait totalement écho au rythme de l'œuvre, au rythme de la musique, tout en un spectacle assez lent, mais qui rend parfaitement justice à l'opéra de Debussy et au livret de Maeterlinck.
Alors, c'est pour avoir une direction d'acteur fine, faut-il avoir aussi les interprètes ? Alors, Patricia Petitbon, vous l'avez cité. Oui. Jean-Sébastien Bou, dont on sait le goût pour le jeu, évidemment, et c'est Kyle Kettleson qui est Golo. Alors, on peut parler peut-être de ces interprètes, à la fois dans leur jeu et puis, bien sûr, dans leur pratique vocale, Anna Sikelevitch.
Oui, Est-ce que je peux juste un tout petit peu continuer sur la mise en scène, parce que
mais bien sûr.
Juste pour dire que je suis vraiment absolument d'accord avec ce que dit Emmanuel. Ces silences qui sont remarquablement mis en scène aussi dans les entrées et dans les sorties des personnages. Mmh. Parce que, en effet, ça se termine, les phrases ne se terminent pas souvent, elles se terminent par des points de suspension, elles sont sibyllines, le sens n'est jamais explicite, n'est jamais clair. Et Eric Ruff a réussi, je trouve, à mettre vraiment, à exprimer ses sentiments et ses émotions. On glisse d'un tableau à l'autre. Il n'y a aucune rupture. Il y a une sorte de continuum qu'il arrive à créer, qui est, moi, je trouve vraiment fascinant et assez hypnotique. C'est une grande réussite, à mon sens, parce que je pense que c'est très difficile à mettre en scène. Et il y a à la fois l'errance, le non-dit, et en même temps une intensité très forte de tous les personnages, en tout cas dans leur jeu, dramatiquement. Je suis plus réservée vocalement pour certaines choses, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'on sent extrêmement bien ça et que les corps expriment toutes les légères infections, la façon dont un personnage a fini sa phrase, mais il ne sort pas à l'endroit où il est, il va faire le tour du plateau pour sortir, puis un autre apparaît. C'est vraiment un ballet des corps. Comme si, c'est, en fait, les pensées continuent. Les personnages sont mus par leurs pensées et non par ce qu'ils disent. Ce qui est en effet précisément ce que dit la pièce de Maeterlinck qui est l'opéra de Debussy. Donc ça, c'est absolument splendide. Maintenant, répondre à votre question sur les chanteurs, moi, j'étais très séduite par Patricia Petitbon. Qui je trouve campe une
n'est pas forcément d'accord.
Moi elle m'a plu. Elle a comme ça un ailleurs, on sait pas d'où elle vient, on sait pas quel âge elle a. Je trouve qu'elle est juste pour le rôle. Elle a une certaine sobriété, voilà, qui n'est pas toujours évidente chez elle.
Bon, toujours pas d'accord. Emmanuel Dupuis, alors, répondez tout de suite, peut-être.
Il y a une sobriété relative, effectivement. Elle est, globalement, j'ai aussi aimé son incarnation, mais bon, le seul détail, moi, qui me réplique, je sais pas si c'est un petit bon, c'est cette manie, par moment, de fixer ses aigus, de faire des aigus tout droits et de laisser mourir presque comme dans un miaulement. Ça donne parfois l'impression qu'elle minaude, alors qu'en réalité, elle n'a pas besoin de ça, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage.
Ceci étant,
l'incarnation est très convaincante, déjà physique.
Et les autres.
Voilà. Alors, Kyle Katerson qui donc interprète Golo, belle incarnation dramatique, à mon sens. Voilà, il incarne très bien le rôle. On sent toute la souffrance, la culpabilité, oui. Bon, stylistiquement, je trouve que c'est un peu, voilà, pour moi, il fabrique trop. En fait, le chant manque de naturel, la phrase manque de simplicité. Je l'ai vu beaucoup faire. Pour moi, c'est un chant qui est trop construit et trop sophistiqué pour une œuvre comme celle-ci.
Cela vient peut-être du fait qu'il n'est pas francophone à l'origine et que dans Pélas, on le sait très bien, la langue est aussi importante que la musique, ceci étant, il a quand même une très bonne diction. Mais effectivement,
c'est pas un problème de diction, c'est un problème d'effet. Pour moi, il y a trop d'effet.
Mais c'est probablement plus travaillé que spontané. C'est ça, effectivement, qui crée ce sentiment.
Et donc, Emmanuel Dupuis, Jean-Sébastien Bou.
Alors, Jean-Sébastien Bou, évidemment, c'est un artiste que l'on aime énormément. Le seul problème, c'est que, moi, la première fois que j'ai entendu chanter Péléa, c'était pour le centenaire de la création à l'opéra comique, donc en 2002, il y a 15 ans déjà. C'est absolument fabuleux. Sauf qu'entre-temps, ce cher Jean-Sébastien, comme nous tous, a pris de l'âge et sa voix a changé, ce qui est normal. La voix s'est assombrie. Et aujourd'hui, Péléa, c'est une tissure totalement hybride entre le baryton et le ténor. C'est un rôle qui peut être chanté par des ténors, d'ailleurs. Et dans certains passages, notamment sa dernière scène, là, au niveau des aigus, il y a quand même quelques petits soucis. Mais ceci étant, c'est quelqu'un qui incarne.
Oui, et puis c'est un tellement bel artiste
donc,
très bien.
Mais c'est vrai que il a confié que c'était la dernière fois qu'il chantait Péléas.
Il va passer à Golo.
J'espère bien. Et je pense qu'il fera un très
un
magnifique Golo.
C'est un très beau rôle, évidemment.
Excellente Arkel. J'ai beaucoup aimé Jean Tedgen, absolument. Qui a une autorité naturelle, une voix large, sans effet. Très humain. Oui, oui. Je trouve que c'est une très belle incarnation d'Arkel.
Et puis enfin, je vous presse un peu, mais parce que le programme est riche. Il faut parler de l'Orchestre National de France, dirigé ici par Louis Langrée. Les chœurs de Radio France, également présents pour cette production. Emmanuel Dupuis.
Oui, enfin, les chœurs n'ont pas grand-chose à faire dans
Péléas. Non, mais bon.
L'orchestre est évidemment magnifique et Et heureusement, parce que Pélas Mélisande, c'est quand même la propriété privée de l'Orchestre National de France. S'il n'arrivait pas à jouer magnifiquement cette musique, ça serait quand même très inquiétant. Et ils le font grâce aussi à la direction de Louis Langrée, que j'ai trouvé, moi, très, très juste, à la fois lyrique par moments et à d'autres moments tout en délicatesse et avec une tension dramatique dans cette direction, mais qui n'est pas non plus excessive. Donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment un vrai bonheur.
Ça fait beaucoup de bonheur. Et pour vous, Anna Segalevitch?
Je suis un tout petit peu moins enthousiaste sur l'orchestre. Oui, même si je suis d'accord avec vous, Emmanuel, c'est très fluide, très animé, et il y a des idées. Vraiment, il y a une tension dramatique, il y a un discours qui est conduit de bout en bout. Pour moi, ça manquait quand même un petit peu de transparence et de. Mais bon, c'est aussi la fausse du théâtre des Champs-Élysées qui n'est pas évidente. Mais bon, c'est très beau, hein.
Oui.
Tout va bien.
Tout de même.
Tout ça est très globalement positif à vous écouter pour cette nouvelle production,
production
de Pélléas et Mélisande, de Claude Debussy, direction Louis Langrée, mise en scène Éric Ruff. On peut la découvrir jusqu'au 17 mai, mercredi prochain, au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis on pourra l'entendre sur France Musique le 4 juin.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre la dispute Gluck et Brahms. Avant cela, Xavier Martinet nous invite dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir.
Ce soir, des relations publiques.
Les relations publiques de l'opéra avec son public, plutôt, puisque le 6 et 7 mai dernier, c'était cette opération Tous à l'Opéra qui fêtait sa 11e édition, 100 opéras européens, dont 21 en France, portés par la Réunion des opéras de France, pour un public de 80 000 personnes le week-end quand même. L'occasion aussi donc de constater les efforts faits pour conquérir de nouveaux publics ces dernières années. Théâtre du Capitole de Toulouse, Opéra de Lyon, dans une enquête sur le site de France Musique, Nathalie Moller résume bien cette situation où l'opéra souffrait d'une image globalement élitiste et s'intéresse à leurs principaux axes de médiation. Cela peut être la visite d'un lieu patrimonial, toujours bien sûr à Bastille, Garnier ou Bordeaux, mais aussi les journées portes ouvertes tous azimuts. Les opéras font tout pour se rendre accessibles et ouverts. Il y a des séances écourtées d'une heure, des propositions de covoiturage, la visite des coulisses et des métiers, les karaokés, les essayages de costumes. Il y a aussi la politique tarifaire qui s'est améliorée. Les opéras sont devenus plus attractifs. J'ai relevé des avant-premières à 10 euros à Paris, moins 30% pour les seniors à Toulouse, un tarif moins de 28 ans à Lille. Et puis, il faut noter aussi ces happy hours de l'Opéra de Rennes depuis 2010, avec des places à 3,50 €. Je les note parce que c'est un peu comme ce qui se faisait au Grand Opéra de Vienne à l'époque, ou l'Opéra de Lyon qui, lui, a transformé ces happy hours en véritable happy hour gourmand et sans alcool. Les théâtres lyriques, eux, font preuve d'imagination, en tout cas, vous le voyez, pour briser la glace des préjugés. Juger une stratégie d'offre tentaculaire d'un côté, à laquelle répond une stratégie de diffusion de la pratique en région. C'est le cas, par exemple, de la chorale de l'Opéra de Lille. Un bon exemple de cette politique d'ouverture est récemment l'Opéra de Strasbourg, premier à organiser un festival heavy metal. Une scène insolite, d'ailleurs, décrite le 29 mai par l'AFP, qui a l'œil lors des concerts. 29 avril, un public de 17 à 60 ans et une couleur qui domine, le noir. Les premiers festivaliers, certains un peu hésitants, ont pris place dès 18h dans le cadre feutré de la salle de l'ONR sur les sièges en velours, dans les loges et derrière les balcons pour assister assis à une série de 5 concerts de rock metal. Où on peut citer aussi l'opéra de Dijon, visité lui par Guillaume Thion dans Libération pendant la campagne. Un bon exemple d'un opéra qu'on pourrait appeler de proximité, c'est le nom qu'il lui donne. Une situation un peu excentrée du centre historique, justement, une architecture étrange qui enjambe une rue comme un restaurant d'autoroute, une salle en gradin copié sur l'Opéra Bastille, mais sans luxe, et une programmation qui attire et se permet même des concerts sur instruments anciens, de nombreux, des productions inédites, avec les élèves aussi. En fait, après une crise financière avant 2014, la fréquentation repart pour cet opéra, 60 000 spectateurs par an. Bref, dit Guillaume Thion, une maison éloignée des projecteurs qui s'agite et démontre qu'elle a des ambitions. Mais la question n'est pas réglée pour autant et l'ouverture ne passe pas forcément toujours bien, surtout quand elle se fait sur fond de problèmes budgétaires. L'opéra de Montpellier doit redevenir populaire, lançait ainsi Midi Libre il y a quelques jours après un rapport sur son financement. Un jugement qui contraste avec celui de La Marseillaise l'année dernière pour une saison savoureuse, populaire, dit le journal, et décalée. Je suis contre la politique du happy few, je préfère le happy many, déclarait d'ailleurs Valérie Chevalier, la directrice de l'opéra, qui a, dit le journal, concocté personnellement la saison 2016-2017. Et finalement, l'opéra de Saint-Étienne est peut-être un bon exemple aussi. Il est cité par l'Essor. Surtout sa programmation, en fait, ce sont les contes d'Hoffmann d'Offenbach, un Requiem de Verdi, un opéra de Rossini, un Siegfried de Wagner et peut-être même une création mondiale. Le résultat, en tout cas, c'est qu'en 2016, la fréquentation est en hausse de 3%, 70 000 spectateurs, dont 23 000 scolaires. Mais une programmation peut-être sans trop de risques, preuve que la politique, on pourrait dire de non-découverte systématique, fonctionne aussi. En tout cas, souvent accusé d'élitisme, l'opéra est particulièrement en région. A-t-il bien réussi sa démocratisation ?
Alors, on va parler de l'Opéra de Lyon dans un instant, une maison où nous allons souvent, comme Strasbourg, comme Lille, Nantes-Angers un petit peu, Dijon tout récemment, Bordeaux moins, mais bon, on risque d'y aller quand même. Il y a quand même beaucoup de maisons, alors qui font avec quand même des moyens et qui ne sont certainement pas ceux de l'Opéra National de Paris. Pour autant, alors, tentons de répondre un petit peu à la question de Gaël Martinet, Emmanuel Dupuis.
Non, mais toutes les initiatives qui permettent de populariser l'opéra et de l'ouvrir sont effectivement louables. Après, il ne faut pas tomber dans la démagogie. Par exemple, le festival de Lévi Mittal. Bon, moi, j'ai rien contre Lévi Mittal, mais
c'est bizarre.
Est-ce qu'en faisant ça, on se détourne pas de ce pourquoi on se bat, quoi, finalement, quoi.
Ça fait presque location d'espace. Pardon pour l'ONR j'aime beaucoup.
Hein. Oui, non, mais moi aussi, c'est pas la question. Le problème, il faut se battre pour la lire avec lui-même et démontrer effectivement que ce n'est pas un art élitiste, comme l'a si bien dit il y a quelques jours notre nouveau président de la République, qui a déclaré que ce n'est pas l'opéra ni la musique classique qui sont élitistes, mais c'est l'usage qu'on en fait. Et c'est tout à fait vrai. Après, nous verrons dans le quinquennat qui vient si ces paroles sont suivies des faits.
Anna Segalevitch.
Moi je partage ce que dit Emmanuel. Il faut être honnête, c'est beaucoup une question de prix. Voilà, parce que quand on dit que les gens ont peur...
Je ne suis absolument pas d'accord là-dessus. Non, c'est beaucoup... Aller à l'opéra ne coûte pas plus cher, et peut coûter beaucoup moins cher qu'aller écouter Céline Dion ou Johnny Hallyday au Stade de France.
Et même
qu'aller voir certains matchs de football. Et personne...
Les gens ont peur du prix, moi, je pense.
Les gens se disent que c'est pas pour eux.
C'est un préjugé. C'est un préjugé, mais bon, voilà, c'est de plus en plus un préjugé, parce qu'il y a de plus en plus d'actions.
Les grandes salles de concert, c'est 80, 100 euros les places, même à l'Accor Arena.
Oui, enfin... Oui, mais un concert en première catégorie à l'Opéra de Paris, c'est 260 euros.
En première catégorie. Mais vous avez des tas de places à moins de 100 euros aussi.
C'est vrai, vous avez raison. Et il y a de plus en plus... Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont les choses se déplacent. C'est-à-dire que j'ai senti il y a quelques décennies, enfin en tout cas il y a un petit moment, qu'on mettait beaucoup l'accent...
Vous n'étiez pas née il y a quelques décennies, Anna.
Non, mais quand j'étais moi-même jeune, enfin quand j'étais petite, quoi.
Avant-hier.
Qu'on s'intéressait beaucoup aux jeunes. Je me souviens de la création du Passe Opéra Jeune, je devais avoir 15-16 ans, un truc comme ça, quand ça a été créé, ça m'a beaucoup servi, c'est ça qui m'a initié à l'opéra, c'est grâce à ça que j'ai pu aller à l'opéra, donc ça c'est de plus en plus, et ce qui est intéressant c'est que donc après les collectivités, après la guerre, les jeunes, ensuite je dirais dans les années 90-2000, aujourd'hui on sent que c'est aussi un autre public qu'il faut toucher par les familles, par les gens de 40 ans, et j'ai l'impression que les maisons d'opéra réfléchissent pas mal à ça aujourd'hui, en proposant moins de 40 ans, moins 40%, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de 28 ans? C'est une vraie question.
On sait très bien qu'entre effectivement l'entrée dans la vie active et surtout la construction des familles et la retraite, c'est là qu'il y a le grand trou
de
spectacles vivants,
pas que la musique classique.
Non, bien sûr, on sent que les maisons d'opéra réfléchissent vraiment à ça, que c'est un bon moyen, qu'il y a des tarifs famille aussi qui sont mis en place où les parents qui emmènent leurs enfants, les enfants payent moins 50%. Enfin, il y a plein de choses. Ce que fait Christophe Rousset à Dijon, c'est fondamental aussi. Quand il a monté la flûte enchantée, d'ailleurs, qui dirigeait extrêmement bien, il est allé dans des classes de collège à Dijon et à Paris, où il a monté une sorte de mini-flûte qui durait, je crois, 45 minutes, quelque chose comme ça. Donc, voilà, ça, c'est des initiatives qui me semblent absolument essentielles, fondamentales, et je pense que c'est comme ça qu'on peut changer le rapport et les préjugés sur l'opéra.
Emmanuel Dupuis.
Oui, mais bien entendu, tout passe avant tout par l'éducation artistique. C'est l'éternel serpent
de mer. On est d'accord. On espère que ça va revenir dans les faits maintenant. Xavier Martinet.
Oui, si on revient à la question de la programmation, je prends encore l'exemple de l'opéra de Saint-Étienne qui est sous contrainte budgétaire, qui, on le voit, puisque ça a été l'objet d'un débat local, adapte sa programmation pour essayer de séduire en masse le public régional. Quoi qu'on en pense, en tout cas, la joie que il a 250 000 euros de baisse sur 3 ans avec un budget artistique qui n'est pas énorme dans le milieu des opéras français, c'est 4,5 millions d'euros, mais il prévoit 50 productions et 120 levées de rideau. Est-ce que c'est un rythme qui vous semble normal et tenable, simplement sur la question du rythme?
Ça fait beaucoup, là.
Oui, c'est beaucoup par rapport effectivement, à une subvention qui est très modeste. Si on la compare, par exemple, à celle de l'Opéra de Paris, qui est de 95 millions d'euros par an. Ceci étant, il faut avoir l'ambition.
Donc. Il faut avoir l'ambition, mais l'ambition, c'est se dire aussi qu'on programme Carmen, donc Carlo, Aïda, et que comme ça, on remplit plus facilement que si on programme.
Peut-être, enfin,
pour Berger.
Oui,
bien entendu.
Et Moïse Aaron.
Oui, Moïse Aaron.
Bien entendu.
Oui.
Et la deuxième remarque que j'avais concernant ces opéras de région, on n'en a pas parlé, c'était l'opéra de Rennes, qui avait été dirigé par Alain Surance. On apprend assez récemment qu'il a été nommé à l'opéra Angers-Nantes. Ce que dit la direction de l'opéra Angers-Nantes, c'est qu'il était très attaché à l'idée de faire de l'opéra un art d'aujourd'hui. Il a à cœur de renforcer encore l'adhésion des publics. Est-ce que on l'emploie à l'opéra d'Angers-Nantes pour précisément redresser un opéra en difficulté? Est-ce que cet opéra de Rennes, vous l'avez vu et qu'il a effectivement eu une programmation et une politique qu'on pourrait dire exemplaire de cette ouverture?
L'opéra de Rennes est l'opéra qui a la plus petite subvention depuis toujours parmi les opéras de région. Ceci étant, je pense que cette nomination d'Alain Surance à Angers-Nantes est intéressante parce que ça augure peut-être d'un rapprochement entre les opéras d'Angers, Nantes et Rennes. Et je pense que c'est une voie pour l'avenir parce que aujourd'hui on a des tas de petites maisons d'opéra partout. Alors le cas le plus frappant, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, où vous avez l'opéra de Nice, l'opéra d'Avignon, l'opéra de Marseille, l'opéra de Toulon, des maisons qui font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont, mais
il faut mutualiser.
Mais je suis persuadé que si effectivement ces villes et ces opéras mettaient leurs moyens en commun, on arriverait à une politique artistique bien plus ambitieuse.
Et ça, dans
le cadre de la régionalisation et des nouvelles grandes régions, j'espère que ce sont des pistes qui seront explorées dans les années qui viennent.
Et puis, j'ai oublié de citer l'Opéra de Rouen aussi, dans les maisons qui tentent aussi de faire des choses intéressantes et que c'est une belle maison aussi. Des choses à rapprocher. On suivra toutes ces questions. Pour l'heure, nous fermons les portes du petit salon. Et le deuxième opéra à notre affiche ce soir, c'est Alceste de Gluck, dirigé par Stefano Montanari, mise en scène par Alex Olé. C'est justement à l'opéra de Lyon. Alceste est une tragédie grecque très ancienne, la plus ancienne version qui nous soit parvenue, celle d'Euripide, 4 siècles avant notre ère, mais il y a eu des versions plus anciennes. Au cœur du XVIIIe siècle, quand Gluck compose cet opéra, c'est une histoire qui est très bien connue des amateurs de théâtre et d'opéra. Il adapte donc cette pièce avec Calzabigi, son librettiste, création en 1767 au Burgtheater de Vienne. C'est la version française qui est donnée à Lyon en ce moment. Où l'on voit Admète, roi de fer, sur le point de mourir, quand les dieux lui proposent la vie sauve, à condition qu'une autre personne se sacrifie. Évidemment, c'est la femme d'Admète, Alceste, qui par amour offre sa vie en échange de celle de son amoureux. Et là encore, on va entendre un extrait de Répétition.
Yeah. vivre sans toi, moi, vivre sans un geste, vivre pour abolir la guerre si triste. Baiser par par le Dieu, au cœur de tout le monde, sans cesse déchirer, palper tout le monde.
Interrompre. Bon, moi j'écouterais bien Alceste jusqu'au bout de la nuit, hein, je ne vous le cache pas. J'ai une passion pour Gluck et cette Alceste est quand même là. Pas son plus mauvais opéra. Emmanuel Dupuis, on parle de cette production visible en ce moment à Lyon. Vous les avez envie de commencer par quoi ?
C'est vous qui choisissez. Commençons par le spectacle.
Le théâtre, on va dire.
Qui m'a fait passer par à peu près tous les états, l'énervement, la joie, l'ennui. Mais finalement, quand même une assez grande satisfaction. Même si au début, j'étais quand même un petit peu inquiet parce qu'avant que le rideau se lève, on voit un petit film qui nous montre qui nous montre Alceste et Admète, un couple de bourgeois qui partent en voyage dans leur grosse voiture.
On dirait un placement de produit, une pub pour BMW, franchement.
Ça n'était absolument pas
ça
réussi.
Ça marche puisque vous avez cité la marque.
Ce n'était absolument pas réussi.
C'est un pigeon terré, moi.
Complètement.
Effectivement. Et donc il y a une scène de ménage qui est très mal jouée. Et ils ont un accident. Et le rideau se lève. Et donc.
Vous avez oublié de dire que c'est quand tu tournes le bouton de l'autoradio que la musique commence.
Par charité chrétienne.
J'ai dit que j'allais commencer par être très inquiet et très énervé. Et effectivement, j'avais des raisons. Donc, le rideau se lève et on découvre Admète sur son lit d'hôpital. Donc, il a eu cet accident grave. Et donc, il est à l'agonie. Et l'opéra peut donc commencer. Et Alceste, elle, en a réchappé. Voilà, vous m'avez troublé avec tout ça.
Vous avez été réjoui, ému.
Ce début-là m'a vraiment énervé parce que je me suis dit, voilà. Alex Olé pense que le spectateur de 2017 est trop bête pour comprendre un sujet mythologique. Donc, il en fait un fait divers moderne.
Il le dit, c'est ce qu'il dit. Il écrit ça, vous avez vu ?
Grâce à notre attention.
Oui, je l'ai vu.
Au fait. Voilà.
Donc, tout ça est assez énervant. Autre détail très énervant au début, c'est que le chœur, qui est un des protagonistes du drame chez Gluck, et
dans la fosse.
Collé au fond de la fosse. Ça, je suis désolé, mais ça, c'est une manie qu'il faudrait interdire à l'opéra. Vous voulez mettre en scène un opéra, mais vous vous débrouillez pour mettre en scène le chœur, surtout quand il a un rôle aussi important que dans les opéras de Gluck. Donc, ça, c'était vraiment.
Vous imitez Castellucci ou vous tentez de le faire
Oui, mais même Castellucci, bon, bref.
Non, mais je dis ça.
Ça n'est pas le sujet.
C'est pour vous agacer, mais ça marche quand même.
Donc voilà. Alors après, Alex Solé a quand même été très inspiré de ne pas évacuer la dimension sacrée de l'opéra. Et notamment, toute la scène, j'ai trouvé toute la scène du grand prêtre très réussie. Le grand prêtre qui normalement invoque l'oracle d'Apollon. Et là, il en fait une espèce de gourou de secte qui s'adonne à des séances de spiritisme. C'est un numéro en plus très très bien incarné par Alexandre Duhamel. C'est un numéro assez réussi. Ensuite, la direction d'acteur est assez statique et du coup, on assiste à une sorte de drame bourgeois qui manque d'énergie. Ça s'arrange au dernier acte puisque Alceste, en fait, pour accomplir son sacrifice des fenêtres, parce que le propos d'Alex Solé, c'est de rendre tout rationnel, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui a trait à la mythologie justement pour rationaliser cette histoire. Donc le sacrifice d'Alceste, c'est tout simplement casser des fenêtres. Et au troisième acte, quand le rideau se lève à nouveau, c'est cette fois Alceste qui est en soins intensifs sur son lit d'hôpital et grâce à la vidéo. Un usage assez discret de la vidéo, on comprend que dans son agonie, elle délire, et que dans son délire, elle rêve qu'elle est transportée aux enfers et qu'elle retrouve Admet. Mais finalement, quand l'opéra se termine, on comprend que tout ça n'était que le délire d'Alceste, puisque l'orchestre rejoue l'ouverture. On apporte à l'avant-scène un cercueil où J. Alceste, elle est vraiment morte, puisque dans cette vision totalement rationnelle, il n'y a pas de place pour la superstition et la résurrection du personnage. Donc voilà, spectacle inégal.
Qui a une certaine cohérence, à vous écouter, d'une finesse non plus de lecture.
On ne peut pas dire.
Voilà. Bon, j'essaie de comprendre, ne l'ayant pas vu.
Moi, je trouve que vous êtes gentil, Emmanuel.
Bon, donc pour vous, c'était encore pire. Non, mais peut-être pas trop longtemps.
Oui,
vous savez,
on
a Arcadie Volodos que vous avez envie d'entendre dans la durée, je vous rappelle,
oui.
Anna Segalevitch.
Absolument. Non, juste une seconde pour la mise en scène.
Non, mais je vous en prie.
Pour moi, c'est vraiment problématique, en fait, ce prologue de départ, parce que. Ça veut dire que ce que dit Alex Solé, c'est que c'est par culpabilité qu'elle se sacrifie pour Admet. Or, pour moi, toute la beauté de cette œuvre, c'est
que. Oui, c'est qu'elle le fait par amour.
Ben, elle le fait par amour. Mmh. Et là, c'est pas un problème de rationnel ou de parationnel. C'est qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Moi, je n'ai pas senti l'amour et le désir de ce. Elle dit que c'est pas un sacrifice, que c'est naturel quand on aime de faire ça. Et ils disent ça l'un pour l'autre. Je veux dire, ils se disputent l'un et l'autre la perte de la vie par amour. Et ça, c'est quand même absolument magnifique. C'est un livret que moi je trouve très très beau.
C'est splendide, bien sûr.
Oui, mais ça on l'a pas du tout et c'est fondamental. Donc pour moi c'est plus grave que ça en fait. Ce qui est mis en scène dès le départ avec cette dispute, en fait cette dispute c'est un contresens qui est vraiment problématique parce que du coup ça raconte complètement une autre histoire et qui n'est pas non plus vraiment racontée. Voilà, donc on est dans un entre-deux que je trouve très dommage.
Et on devrait déjà presque passer au sujet suivant. Oui. Donc parlons des interprètes, Karine Dehé et cette Alceste, Julien Bert, Admet, hein, pour les rôles principaux, mais bien sûr les autres comptent aussi.
Oui, et Julien Bert, très très beau timbre, très élégant, un tout petit peu en retrait, j'ai trouvé dans cette production, mais parce que je trouve qu'ils ne sont pas aidés par la mise en scène non plus. Moi, je les trouve très livrés à eux-mêmes, hein, dans tous leurs airs, dans les changements de dynamique. Ils doivent un peu se débrouiller et négocier
Alex
eux-mêmes.
Alex Solé, c'est pas un roi de la direction d'acteur.
Non, franchement, ils négocient eux-mêmes
la direction d'acteur. C'est minimaliste.
C'est difficile. Karine Dehé, ce timbre charnu, elle a une très belle projection. Bon, c'est pas exactement pour elle, à mon sens. Donc dans les aigus, c'est pas, voilà. Mais elle compense par une incarnation qui est très belle et elle est habitée.
Il y a beaucoup de noblesse quand même.
Ah oui.
Chant, dans la déclamation.
Ah, ouais.
L'aigu est un peu tendu, mais c'est quand même.
C'est très beau.
C'était joué.
La ligne est très belle.
C'était joué à un diapason très assez élevé, donc du coup ça ne l'aidait pas. Mais voilà, moi j'ai quand même été assez bluffé par son incarnation. Et c'est vrai que Julien Bert, c'est une voix un petit peu moins puissante, donc il pallie un peu à côté de celle de Karine Dehé, mais c'est tellement
c'est tellement
subtil que c'est qu'on y succombe.
C'est un très beau duo.
Voilà, et on succombe aussi au numéro d'Alexandre Duhamel, comme je le disais tout à l'heure, qui incarne le grand prêtre, magnifique bariton.
Anna Segalevitch, Stéphane Montanari.
Alors là,
la direction. Pas facile, Gluck.
Non, c'est pas facile. Alors c'est très expressif, voilà. Moi, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'écoute, en fait. Il n'était pas très attentif au plateau vocal. Et donc, du coup, il y avait, c'était fragile. Ouais. Voilà, c'était fragile. Il y avait pas mal de décalage le soir où je l'ai vu. Alors, il faut préciser que c'est l'Opéra de Lyon qui joue pour la première fois avec des archets baroques, sur des instruments pour les cuivres d'époque. C'est à suivre. Ça me semble.
C'est un sujet de débat, parce que ça pose la question de la polyvalence. Quoi. Et à la base, il faut quand même préciser que si on s'oriente vers ce genre de solution aujourd'hui, c'est avant tout pour des raisons économiques, c'est que ça évite de faire appel
à des formations
spécialisées.
Ouais. Donc, votre sentiment sur
l'orchestre. Oui, alors effectivement, c'était un baptême du feu pour l'orchestre sur instruments anciens. Il y a des marges de progrès certaines, notamment du côté des vents. Mais ceci étant, bon, je trouvais que la patte était quand même déjà, la patte sonore était quand même déjà ferme et unie. Et c'était conduit quand même avec pas mal d'énergie, de souffle par Stefano Montanari. Donc de ce côté-là, c'était plutôt réjouissant.
Bon, encore trois représentations à l'Opéra de Lyon pour cette Alceste de Gluck. Direction donc Stefano Montanari, mise en scène Alex Olé. Et puis une date encore indéterminée sur l'antenne de France Musique.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Troisième sujet de cette dispute musique ce soir, le disque Volodos Plays Brahms d'Arkady Volodos chez Sony Classics. Comme nous avons peu de temps, je rappelle qu'Arkady Volodos est un pianiste russe né en 72, qui a débuté assez tardivement le piano puisqu'il a d'abord suivi les cours des études de chef d'orchestre au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Et puis qu'au-delà de son talent d'interprète, il est réputé pour ses transcriptions. C'était son premier disque d'ailleurs en 92. On a parlé de son précédent disque, c'était en 2013, donc ça fait quand même déjà 4 ans, qui était consacré au compositeur catalan Federico Mompou. Cette fois donc, c'est Brahms et on va écouter tout de suite un passage d'intermezzo opus 117.
Thank you.
Arkady Volodos joue Brahms dans ce nouveau disque. Je le dis, il n'en publie pas, il n'en grave pas souvent, Anna Segalevitch, donc vous n'allez pas le rater, c'est ça?
Ah bah non, il ne faut pas le rater. Le disque Mon Pou était très très beau, on en avait parlé beau, sur cette même antenne. Dans cette même émission, absolument. Et ce disque est à nouveau très très beau. Alors, il a beaucoup joué ces derniers temps en Brahms en concert, Volodos, jusqu'à d'ailleurs très récemment, moi je l'ai entendu dans le deuxième concerto il y a quelques jours à la Philharmonie, c'était absolument magnifique.
Il fera un programme le 5 juin à la scène musicale,
Brahms. Le programme du disque à la scène absolument. Musicale, exactement. Et alors, c'est intéressant parce qu'il dit que, voilà, qu'il a beaucoup joué ça en concert, mais qu'il avait besoin que ça mûrisse en lui, que ça prenne du temps avant de les enregistrer pour que ses œuvres pénètrent loin, enfin aussi loin que possible, dans les couches profondes, il dit. Et c'est vraiment ce qu'on sent dans ce disque, c'est-à-dire que cette musique est ancrée au plus profond de lui, il n'a pas besoin de prendre la parole. On n'a jamais le sentiment qu'il prend la parole. On a l'impression que ça jaillit avec une intériorité qui est absolument pénétrante. On entend toute la mélancolie, toute la profondeur, toute la gravité de cette musique, mais sans jamais se complaire dans aucun débordement. Je veux dire, ça ne suinte jamais. Voilà, ça, c'est absolument naturel. Ce rubato extrêmement nourri, ces sonorités qui sont très pleines. Il a des moyens techniques qui sont assez illimité, Arkady Volodos. Et en même temps, donc voilà, ça permet d'être dans une très très grande puissance. Hein. C'est un piano qui est par moments très orchestral. Mais c'est toujours pour servir l'œuvre, l'intention est uniquement dans le fait d'aller au plus profond de la musique. Donc voilà, pour moi, c'est un disque vraiment de toute beauté que j'ai découvert grâce à Emmanuel. Encore une fois, je n'avais pas guetté.
C'est
Emmanuel
Dupuis
qui nous a alerté sur la sortie du disque.
Qui était de veille, donc.
Je vous ai alerté tout simplement parce que je pense que c'est un des plus grands disques de piano qui nous soit arrivé depuis très longtemps. Et bon, ce que dit Anna est tout à fait juste. Effectivement, Arkady Volodos dit souvent que la notion d'interprétation est quelque chose qui lui est étrangère, parce que la musique doit effectivement primer, et c'est ce qui se passe tout au long de cet enregistrement. Alors, ces pièces de Brahms, on n'est pas dans le Brahms le plus spectaculaire, c'est pas le Brahms des trois sonates, ce sont plutôt des pièces tardives et plutôt intimistes, mais en même temps, ce qui frappe d'emblée, c'est effectivement ce piano totalement orchestral, totalement symphonique, dont Volodos fait ce qu'il veut, qu'il malaxe, qu'il travaille avec un éventail de nuances, mais absolument sidérant. Donc voilà, c'est effectivement, c'est malgré tout, c'est quand même un piano qui a bon, on disait qu'effectivement il était la musique devait primer, certes, mais en même temps il y a quand même un discours, c'est quand même pas un piano qui parle, il y a une très grande éloquence. Tout ça est vraiment magnifique.
Mais par rapport au programme, même, vous l'avez dit, plutôt des pièces tardives et plutôt pas les plus, on va dire, spectaculaires, mais on a entendu, avec cet extrait de cet intermezzo, cette profondeur dont parlait Anna Segalevitch, juste rappeler un peu, pardon, très, très rapidement le programme.
Oui, le programme, donc il y a des pièces pour piano, il y a les Klavierstück opus 76, numéro 1 à 4, 3 intermezzi opus 117 et 6 pièces pour piano, donc les Klavierstück opus 118. Donc voilà, des capriccios, des intermezzos, une ballade, une romance, qui sont effectivement des pièces très tardives. Par exemple, opus 76, je crois que Brahms écrit ses pièces, ça fait presque 15 ans qu'il n'a pas écrit de piano. Il s'est consacré beaucoup, beaucoup à la musique symphonique et il revient à des petites formes pour commencer à ouvrir un chemin vers ces pièces très intimes, d'ailleurs, qu'il ne souhaite appeler que des pièces pour piano. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est dit dans le livret. Je crois que c'est l'éditeur qui dit, mais attendez, comment on va appeler ça? Non, on va appeler ça juste des pièces pour piano, en fait. Brahms va très, très bien aussi pour ça à Arkady Volodos.
Emmanuel Dupuis.
Oui, pour moi, les 6 pièces de l'opus 118 sont probablement la partie la plus ambitieuse du programme. Ce qu'on admire avant tout chez Volodos, c'est l'art de l'architecte, puisqu'il passe de l'infinitésimal au monumental en un clin d'œil. Il y a vraiment un très grand sens de l'architecture. Après, un disque, c'est aussi un ensemble, et il faut parler de toutes ses composantes. La prise prise de son qui est remarquable, qui ne grossit pas le son du piano comme malheureusement trop souvent. Et l'instrument lui-même, l'instrument qui a une sonorité à la fois ample et feutrée, jamais clinquante.
Parce que c'est pas un piano tout neuf, hein, c'est pas un piano flambant neuf, il a fait exprès, hein, je crois, de jouer sur un piano qui a une quinzaine d'années.
Exactement, il est très très attentif au choix de ses instruments et là c'est un bonheur.
Bon, ben, absolument, à se procurer donc ce Volodos Plays Brahms d'Arkady Volodos chez Sony Classics. Et puis je rappelle qu'il sera avec ce programme Brahms le 5 juin en concert à la Scène Musicale à Boulogne-Billancourt. Et puis il aura un programme Schubert plus tard le 25 juin à Tours. Et puis à la rentrée au Cloître des Jacobins à Toulouse, un programme Schubert, Schumann, Brahms. Ce sera le 22 septembre. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, avec un rappel, grâce à Justine Diebling, du jeu d'hier au soir, rappel de la question et découverte de la réponse, Justine.
Le spectacle Het Land Nood du collectif belge FC Bergman est une reconstitution grandeur nature d'une célèbre salle du musée des Beaux-Arts d'Anvers. Quel est le nom de cette salle? Et la réponse était la salle Rubens.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Claude Hivernet, Belada Soudan, à la Fondation Henri Cartier-Bresson, à découvrir jusqu'au 30 juillet. Quelle est la question, Justine?
Avant de se lancer dans le photoreportage en Afrique, le photographe Claude Hivernet a commencé sa carrière artistique chez un grand couturier français. Qui était-il?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions, vous abonner bien sûr au podcast, nous écrire, vous pouvez le faire aussi par la page Facebook La Dispute FC ou le Twitter Dispute FC. Nous vous donnons rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature avec nos deux Elisabeth, Elisabeth Franck Dumas et Elisabeth Philippe, à notre affiche. Merci pour l'invitation de Laurie Moore à l'Olivier, des Hommes sans Femmes de Haruki Murakami chez Belfond et puis de la Simplicité d'Henry David Thoreau chez Gallimard en folio Sagesse. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.